Ici, dans Apocalypse chapitre 2 et 3, nous avons sept églises qui étaient des églises historiques, réelles, des églises locales. Jésus les a choisies parmi toutes les autres églises avec l'optique qu'elles allaient représenter déjà les propres problèmes à elles, mais aussi les difficultés qui allaient être... les difficultés auxquelles les chrétiens seraient exposés à travers les siècles. Globalement, donc, la première église à Éphèse a à se repentir. La seconde église à Smyrne doit avoir confiance à travers la persécution. L'église de Pergame doit abandonner leurs impuretés spirituelles et morales. L'église à Thyatire doit rejeter leur femme pasteur prophète et aussi abandonner l'occultisme et leur impureté spirituelle et morale. L'église à Sardes a se repentir. L'église à Philadelphie doit tenir ferme. Et l'église à Laodicée, c'est un peu le plus bizarre de tous. C'est une église où Jésus était mis en dehors. C'est une église qui a tourné le dos sur le Seigneur Jésus. Et Jésus dit, si quelqu'un dans cette église-là veut être sauvé, il faut quitter l'église pour venir à lui à l'extérieur. Et on va voir dans l'Apocalypse, chapitre 18, que les croyants sont invoqués à quitter la fausse religion. Alors, on va revoir rapidement. Il y avait plusieurs choses dans le chapitre 2 et 3. Ah oui, donc, à la fin de, disons, chaque église, il y a un appel ou une affirmation, je devrais dire, concernant le vainqueur. Celui qui vaincre, eh bien, Dieu va faire ça pour lui. Là, nous avons tous la difficulté de dire, tiens, s'il va faire ça à celui qui est vainqueur, qu'est-ce qui va arriver à celui qui ne vainque pas, qui n'est pas vainqueur? Alors là, c'est une chose à éviter. Parce que la raison pour laquelle tout croyant va être vainqueur, c'est que Jésus a déjà vaincu. C'est Jésus qui est victorieux. C'est lui qui a déjà vaincu le péché et il nous rend vainqueurs. Nous, en Christ, nous serons tous vainqueurs. Et donc, quand il dit « celui qui va vaincre aura ceci ou cela » ou « sera appelé ceci ou cela », etc., eh bien, c'est une promesse. Ce sont des promesses, des affirmations, des vérités. Et nous devons croire, nous ne devons pas mettre en doute ce qui est notre habitude. Ah, mais si je n'arrive pas, vous allez arriver, parce que c'est Jésus qui vous assure la victoire. La victoire. Déjà, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a autre? Oui, vas-y, posez vos questions, parce que c'est comme ça que je peux vous aider le mieux.
Il y a une présentation de Jésus en début de chaque lettre. Il y a une différente. Celui qui tient cette étoile dans sa main, après c'est celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui revient à la vie. Celui qui, à chaque fois, il le présente de manière différente.
Oui, chaque fois, il se présente différemment les vérités à propos de Jésus, au début de chaque église. Oui. Une autre question ou observation?
C'est un peu le temps présent, toutes ces visions.
C'est une bonne question. Donc, la question, est-ce que c'est un peu le temps présent? Donc, il y a trois réponses à ta question. Donc, premièrement, c'était les églises historiques qui avaient des vrais problèmes. Donc, dans ce sens-là, c'est historique, c'est fini. Mais, ce sont des problèmes qui reviennent. Quand on regarde les églises autour aujourd'hui, on voit que c'est plein de mêmes choses. Donc, tout à travers l'histoire, il y a eu des problèmes divers et donc Jésus a déjà mis son commentaire à chaque église, à chaque époque, qu'on y avait à se repentir, à revenir à leur premier amour, à abandonner l'occultisme, etc. OK? Donc là, c'est au long terme. D'accord? Mais la troisième chose ici, et je ne peux pas affirmer que c'est exact, mais il y a beaucoup de chrétiens qui croient que justement, on a, à travers ces sept églises, un genre de prophétie de ce qui allait arriver au christianisme à travers les siècles. Donc, la première église d'Éphèse, c'est la première église apostolique. Et à la fin du premier siècle, ils avaient tous plus ou moins tourné vers autre chose au lieu de toujours aimer Jésus, surtout. Après, on a l'église persécutée dans le deuxième, troisième siècle qui était très persécutée par l'État romain et etc., à travers le Moyen-Âge, la réforme protestante, etc. Bon, moi, j'aime bien cette idée, mais je n'insiste pas sur cette idée non plus. Donc, je ne vais pas élaborer plus sur cela.
Ce qui fait qu'on saurait, aujourd'hui, ça correspondrait à l'église de Laodicée. Vous allez dans cette...
Alors, une des raisons que je ne peux pas affirmer que cette interprétation soit correct, c'est justement qu'on en arrive à Philadelphie et à Laodicée. Donc, on va changer la méthode d'interpréter. Donc, on va dire qu'à travers tous les siècles, les vrais croyants dans les vraies églises sont la Philadelphie. Même aujourd'hui, une vraie église sera une église de Philadelphie. Tandis qu'à travers les siècles, donc les églises qui ont abandonné Jésus seraient les églises laodicéennes. Et qu'aujourd'hui, voilà, dans cet écuménisme et dans tout cela, on ne voit que ça. Donc, la réponse est oui. Donc, aujourd'hui, globalement, on voit l'Église laodicéenne. Que ce soit les baptistes, les méthodistes, les catholiques, ils sont tous détournés. Ils n'ont pas l'amour de Jésus. Ils ont l'amour de la fraternité. Mais s'il n'y a pas une relation avec Jésus, il n'y a pas de fraternité. Donc, le principal, c'est Jésus. L'individu est sauvé par la foi en Jésus-Christ et par cette relation avec Jésus, il est en rapport ou en relation avec toute autre personne croyant en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est autrement et c'est une époque de Laodicée, oui.
Mais qui se prépare parce qu'elle n'est pas encore effective. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des...
C'est-à-dire... dans une des prophéties, donc l'Antichrist ne sera pas révélé avant que l'apostasie soit arrivée. Donc nous sommes dans cette époque de Laodicée, dans cette époque de apostasie qui a, vis-à-vis des églises évangéliques, a démarré dans le 19e siècle. Les églises évangéliques ont commencé à se détourner et à travers le 20e siècle, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup se détourné de la vérité. Et aujourd'hui, bon, on est vers la fin de ce processus. Donc, il y a, oui, c'est à la fin, ils peuvent avoir plus de, comment dire, de perfection dans leur pourriture de religion. Mais voilà, c'est pas entièrement laodicéenne parce que nous sommes là. Les croyants, il y a des croyants qui sont là. Et ça me rappelle que Jésus dit dans l'Évangile, il dit, quand j'arrive, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Donc, il n'a pas affirmé qu'il ne le trouverait pas. Mais il met la question là, parce que justement, il y a beaucoup de monde que leur religion, ce n'est pas la foi en Jésus-Christ. Mais ils se disent chrétiens. OK? Donc, dans cette interprétation, donc on a l'église de Philadelphie qui, dans le texte, il dit au verset, je vais le chercher là. Donc, c'est un texte qui est assez disputé dans l'interprétation. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, c'est une référence indisputée de la tribulation de cette année qui va venir. Mais la question que les théologiens se demandent, est-ce que Jésus va enlever les chrétiens avant la tribulation, après la tribulation ou pendant la tribulation? Et donc, ça, c'est les trois points de vue qui se discutent, qui se disputent. Et donc, ici, dans le verset, « Je te garderai aussi à l'heure ». Donc, c'est une phrase en grec qui veut dire « en dehors de ». C'est-à-dire, on ne va pas passer à travers, on ne va pas se trouver dedans, mais on sera gardé entièrement en dehors de. Donc, dans la question grammaticale, c'est un enlèvement avant la tribulation. Il y a des raisons dans la théologie que certains pensent que c'est après, que les chrétiens vont traverser la tribulation et l'enlèvement sera après. Et ça, c'était, par exemple, historiquement, les protestants de l'époque de la Réforme se croyaient dans la tribulation, que le pape était l'Antichrist et il subissait et que Jésus allait revenir à la fin de la tribulation, de cette tribulation-là, pour les enlever. Et dans leur optique, il n'y avait pas un règne de Christ sur la terre par la suite, parce que pendant 1000 ans, déjà, Jésus avait régné sur la terre à travers le pape, dans leur optique de l'époque. Alors, ce n'était pas juste. Après, donc, il y a la question, mais peut-être c'est dans le milieu de la tribulation que Jésus va enlever les croyants quand l'Antichrist va se présenter comme Dieu dans le temple de Dieu. Mais le problème, globalement, avec cette interprétation, c'est qu'il n'y a pas une affirmation biblique à cette idée-là. C'est-à-dire, il y en a qui croient au post-tribulationnisme, il y a qui croient au pré-tribulationnisme, et puis il y en a qui disent, ben non, je n'aime pas ni l'un ni l'autre, donc on va créer un mi-tribulationnisme. Donc c'est un peu thèse, synthèse, et puis thèse, antithèse et synthèse. Ce n'est pas une optique qui est en fait enseignée dans la Bible. Une autre question sur le chapitre 2 et 3?